Esquisse d'un tableau historique du christianisme. Hommage à Condorcet. Vous avez peut-être perçu en entrant dans ce bâtiment quelque chose qui a pu vous rappeler les événements qui se sont déroulés en 2006, voire en mai 1968, mais peut-être aussi autre chose. Nous sommes en effet ici, dans un ancien collège catholique, créé en 1255 par le confesseur de Saint-Louis, Robert de Sorbon, pour accueillir les jeunes élèves sans fortune. Un enseignement essentiellement théologique y était dispensé et son importance fut telle qu'il jouera le rôle de tribunal ecclésiastique. À la fin du XVIe siècle, l'établissement, qui a pris le nom de Sorbonne en 1554, menace de s'écrouler. Il trouve en la personne d'Armand du Plessis de Richelieu, proviseur de la Sorbonne, en 1622, le protecteur actif qui le reconstruit de fond en comble, posant le 1er mai 1635 la première pierre de la chapelle qui renfermera son tombeau. Ce cardinal, ministre de Louis XIII, pouvait-il penser que la Sorbonne serait fermée par les révolutionnaires en 1791 et surtout que la chapelle où il avait décidé de résider à jamais deviendrait le temple de la déesse raison? Cette question nous conduit au fait que le premier ordre du royaume de France a succombé à la fin de ce XVIIIe siècle. Constitution civile du clergé, confiscation des biens de l'Église, persécution des prêtres, serment. La libération qui a jailli comme un événement extraordinaire à la fin de ce siècle a effectivement profané l'univers sacré de l'Église. Notre projet est d'aller à la rencontre de ce profanum, c'est-à-dire de ce qui est devant le lieu sacré, de ce qui est au-delà des significations bien connues, qu'il s'agisse de sanctions pour les uns, d'impiété ou de souillure pour les autres. Est ainsi qu'au lieu de ce qui est devant le sacré, profanum, nous arrivions à toucher du doigt le savoir laïque unique en Europe, qui advint en France à la fin du XVIIIe siècle et qui est à l'origine de notre modernité. Ce que nous apprend l'expérience du transfert montre que cela ne va pas de soi d'être devant ce lieu sacré. Même si on le baptise en quelque sorte laïque, puisque tout porte sans cesse à tourner en rond autour d'un centre, qui est ce lieu sacré, mais aussi ce que démontre l'expérience du transfert, c'est justement qu'il peut arriver qu'à la révolution du Saturne soit produit quelque chose, un savoir laïque, qui fasse que le Saturne lui soit substitué. Plus, cette expérience qui est la nôtre, dans notre pratique, est sans équivalent du fait qu'elle suppose l'existence d'un rêve évolution, plus exactement, d'un révolution qui serait la rencontre soudaine du Saturne et du Satombe, au point justement où l'a démontré à la fin du XVIIe siècle Newton. Les psychanalystes pourront penser, en regard de ce savoir laïque et de ce qu'il suppose de profane à l'article de Freud sur la psychanalyse laïque, celle qui justement profane. Puisqu'il s'agit d'un savoir et non pas d'une accumulation de connaissances, que le lecteur prenne juste la mesure de cette mise qu'est le savoir, pour autant qu'elle est étrangère à la pensée. Il s'agit en effet de toucher du doigt le savoir absolu, absolutus, celui qui s'écarte, ab, du solutus, du solvere, celui qui s'écarte en séparant, dissolvant. Dissolvant quoi ? Le fait qu'il y a un sujet et un objet. Pour en rendre compte, nous pourrions dire de façon rapide que ce savoir absolu est présent dans l'énoncé suivant qui clôture « Ce n'est pas un savoir juste, c'est juste un savoir. » Surprenant message pour notre temps de psychologisme où tout s'explique indéfiniment. Il se devait d'être transmis par quelqu'un qui franchissait souvent, justement, les frontières, celle bien connue de la connaissance. Notre hypothèse est qu'au décours de sa vie, ce viator, ce voyageur, qui n'avait cessé d'errer, sans le savoir, s'abritant dans la vie mondaine du XVIIIe siècle, a été soudainement arrêté par un expert en tout, et il s'agira de rendre compte de ce tout, assoiffé de liberté, que nous connaissons tous, Wolfgang Amadeus Mozart. Notre projet et d'en faire entendre la suite. La parution en 1960 de l'édition du texte original du manuscrit Histoire de ma vie, publié par les éditions Brockhaus-Plon. Manuscrit qu'il rédige de 1789 à novembre 1793, soit quelques mois avant sa mort, le 4 juin 1798. Profane, l'image du libertin bien connue. Une mise se dévoile et le dévoile, écrivain d'exception, comme se plaît à le nommer Philippe Solers dans Casanova l'admirable. C'est ce périple laïque qui prévaut ici. Durant l'été de 1789, un homme de 64 ans qui a accepté d'abord sans grand enthousiasme, mais il était en quelque sorte obligé pour survivre matériellement, qui a donc accepté la charge de bibliothécaire offerte par le comte Waldstein dans le château de Duchkov en Bohême. S'il a accepté difficilement, c'est parce qu'il sait qu'il va être isolé. Cet homme donc de 64 ans prend la décision de raconter les événements de sa vie. Il sait, il y pense avec grand plaisir, qu'il a été un merveilleux conteur. Et son idée est d'écrire pour jouir de ce qu'il a connu déjà avec plaisir. Et même nouvellement, de ce qu'il a rencontré dans le déplaisir. Il est fidèle à une devise stoïcienne, sequere Deum, suivre le Dieu, qui lui a été enseignée par un vieux sénateur de Venise, De Mali Piero. De ce fait, il n'a jamais reculé devant l'imprévu. Les événements en témoignent. Nous ne les décrirons pas puisque nous partons de leurs limites. Qu'est-ce qui fait qu'il se doit de rendre compte de sa gestion, de celle de sa vie, comme un maître d'hôtel le rend à son maître avant de disparaître? C'est une question. Et il annonce avec élégance le passage qu'il va faire sans le savoir encore. Membre de l'univers, je parle à l'air. Il ne sait donc pas encore qu'une autre jouissance à écrire, J-O-U-I-E-S-E-N-S, que Lacan propose comme néologisme, c'est-à-dire comme quelque chose qui est créé de la rencontre du signifiant sens et d'ouïr, et qui, par cette condensation, crée un signifiant. et non pas insignifié, insignifiant qui représente le sujet. Il ne sait donc pas encore qu'une autre jouissance le guide, qu'elle est en fait son maître. Deux ans auparavant, il a rendu visite à Mozart, qui prépare la première de son Don Giovanni à Prague, qui n'est pas très loin. La dernière journée de Don Juan l'a inspiré, mais il ne le sait pas encore lorsqu'il commence à écrire. Au fur et à mesure que sa plume crisse sur le papier, il commence à toucher du doigt à Duchkov, où l'on peut entendre Dux, le maître, justement le centimètre à écrire SENTI-M apostrophe E accent circonflexe TRE qu'il n'avait pas jusque-là mesuré. Alors, bien sûr qu'un peu plus tard, lorsque l'on n'a pas connaissance du manuscrit, au XIXe siècle, un professeur de français très sérieux, du nom de Jean Laforgue, traduisant son histoire à partir de la traduction allemande de son manuscrit, en a émoussé le tranchant et soi-même allé jusqu'à supprimer le mot « jouissance », ne le surprend pas. Il connaît les censeurs. N'a-t-il pas accepté de collaborer avec les inquisiteurs de Venise quand il était confidente? Ce souvenir le ramène à ceux qui ont pris le pouvoir au nom de la disparition des privilèges. Dans cette révolution française, en fait, seul Condorcet lui semble garder une dignité. Comme le souligne à leur façon Elisabeth Badinter et Robert Badinter dans leur ouvrage Condorcet, un intellectuel en politique, publié en 1988. Casanova se demande pourquoi il ne s'est pas présenté à lui quand il l'a rencontré en présence de Benjamin Franklin le 23 novembre 1783 à Paris, à l'Académie des sciences. Peut-être qu'il était impressionné par la prestance de son savoir. Mais pourquoi son projet de constitution, rédigé par lui, Condorcet, avec quelques avis, élu le 15 février 1793 à l'Assemblée, a-t-il été rejeté par les montagnards conduits par Robespierre? C'est peut-être bien un règlement de compte. C'est vrai qu'il n'était pas comme les autres révolutionnaires. D'ailleurs, il n'est pas passé par la guillotine. Mais il n'aurait pas pu le reconnaître. Il sourit à cette idée surprenante. Chaque jour, pendant plus de 10 heures, il écrit, porté encore et encore par le mouvement de la langue française qui s'est si bien résonné. Je baise l'air croyant que tu y es, rien à voir. avec la version de La Forgue, le censeur. Je lance 1000 baisers qui se perdent dans l'air. Celle qu'il nomme avec discrétion M.M. où l'on pourra entendre quelque chose de cette haine lorsqu'elle lui adresse un billet doux. Savait-elle qu'elle lui faisait entendre le ton gratuit de la signifiance? Femme admirable en tout ce qu'elle faisait. Elle rendait présente une présence qui soudain l'habitait et qui se dévoilait à ce moment même dans les mots de l'autre où elle existait. Une question ne cesse de revenir. Qu'est-ce qui l'a conduit à cette langue qui n'était pas sa langue maternelle et dans laquelle se donnait une autre jouissance, J-O-U-I-E-S-N-S, jouissance toujours insaisissable, et qui l'emportait au-delà de ce qu'il avait pensé jusque-là. Une odyssée, la sienne. Il la découvre à plus de 60 ans. Le 2 avril 1725, le jour de Pâques, il naît à Venise. Sous le nom de Giacomo Casanova, le père officiel est Gaetano. Il aurait été le fils naturel d'un Grimani, patricien de Venise. Sa mère, Zanetta, comédienne, belle et charmante, aura eu une liaison à Londres avec le prince de Galles, d'où naîtra un demi-frère, François. Oui, mais le décor est autre. Son opéra dépasse la comédie d'une liaison amoureuse qui a présidé au destin d'un peintre de bataille. Ce sera le 15e siècle avec Comme Ancêtre. Écoutez bien, un Don Juan, maître du Sacré Palais à Rome, un Marc-Antoine, poète, un Jacques Casanova, militaire. Et surtout, dans le dossier de son père, Jacob Casanova, qui enleva du couvent Doña Anna Palafox le lendemain du jour qu'elle avait fait ses vœux. C'est avec ce roman familial qu'il monte sur la scène de sa vie. Comme analysant, je fus imbécile jusqu'à 8 ans et demi. Après une hémorragie de 3 mois, on m'a envoyé à Padoue, où, guéri de l'imbécilité, je me suis adonné à l'étude. Et à l'âge de 16 ans, on m'a fait docteur. Et on m'a donné l'habit de prêtre pour aller faire fortune à Rome. L'essentiel en quelques mots. L'existence de Giacomo débute sous le regard d'un savoir anonyme qui le fige. Il ne peut ni parler, ni se souvenir, jusqu'à l'âge de 8 ans et 4 mois. C'est alors qu'assistant aux hémorragies qui l'affaiblissent, sa grand-mère Marzia, dont il était le bien-aimé, à l'intuition d'être en présence d'un savoir qui dépasse toute limite connue, qui dépasse les frontières. À l'insu de sa famille, elle l'emmène à la rencontre d'un autre savoir, du même ordre, lui aussi au-delà de toute limite, celui d'une sorcière. Celle-ci l'enferme dans une caisse. Il entend dans sa voix quelque chose qui transcende les rires et les pleurs qu'elle exhale. un savoir nouveau se donne à lui. Il s'éveille. Alors, elle le sort de ce lieu qui n'est plus tellement topographique puisqu'il est devenu topologique. C'est le lieu de la subjectivité qui est apparu. Elle l'emmaillote, lui frotte la nuque, elle étampe avec un onguent à l'odeur suave. L'habille et surtout lui annonce la réduction de son hémorragie à condition, à une seule condition, à condition qu'il ne parle à personne de ce qui vient d'avoir lieu. Alors, une dame bienveillante lui rendra visite la nuit prochaine. Seul, dans ce château, Casanova pense. Le déroulement de sa vie lui apparaît chronologique. D'abord, l'appel symbolique du savoir féminin qui le porte à l'existence. Nous venons de l'examiner. Ensuite, par ses rencontres, notamment des femmes, la quête de l'imaginaire des corps à corps. En trois, la rencontre du réel avec l'ouverture secrète du Don Giovanni de Mozart. Bien sûr, il n'a pas pu le dire, puisqu'Histoire de ma vie s'arrête sur l'année 1774 et que cette rencontre a lieu en 1787. C'est justement le vide causé par cet arrêt qui nous intéresse, puisqu'il permet la mise en scène de notre fiction, dont nous avons parlé déjà dans un article, Mozart et le cri de Don Juan, que l'on peut trouver sur notre site et qui est paru dans la revue Insistance. La rencontre du réel avec l'ouverture secrète du Don Giovanni de Mozart et pour lui, soudainement, quelque chose qui résonne. Les premières mesures de cette ouverture, il les entend. Quelque chose le sonne, il ne l'avait jamais entendu. Et alors, mais seulement à ce moment-là, il se souvient de la confidence de Mozart. C'est ça que Mozart lui a transmis. Mozart accueillant une ouverture dans l'après-coup de quelque chose. Il aura fallu un temps d'arrêt pour que Mozart trouve l'ouverture. Et il l'aura trouvée après avoir rencontré et avoir parlé avec Casanova. C'est la même rencontre qu'il fait, et plus rien n'est comme avant. Histoire de ma vie advient un écrit sur les multiples portées d'une même partition, son écrit, où se fait entendre en même temps ce qu'il avait classé il y a quelques instants dans la succession chronologique. Ce nouveau tempo insaisissable l'enchante. Alors, bien sûr, porté par cette fugitive qu'est la musique, qu'il aura entendue à Prague durant l'automne bohémien de 1787, il se souvient de son arrivée à Paris. Auparavant, à Parme, une Française, Henriette, l'avait initiée à l'amour français et en français. Jouissance du corps féminin. Jouissance, J-O-U-I-E-S-E-N-S, du corps de la langue. Il se souvient alors de l'au-delà du sens des mots qu'elle lui a laissé sur la vitre de l'hôtel à Genève. Tu oublieras aussi Henriette. Avec ce viatique où il reconnaît la vérité dans la tromperie, il passe par Lyon pour entrer dans la franc-maçonnerie. Quelle étrange fraternité! Quel voyage, pense-t-il, en souriant. C'est la première fois qu'il vient à Paris. Ce qui le laisse pantois, c'est l'air de liberté des Parisiennes qui l'enchante. Il ne comprend pas du tout que Schopenhauer, après Rousseau, les ait jugées arrogantes. Mais qu'importe, il est tout à l'opposé. Sa joie à Paris est de se trouver dans l'omniprésence des femmes, de leur audace, de l'esprit qu'elles témoignent. Son admiration est entière, leur description enthousiaste et la mémoire de ses faux pas devant ces femmes élégantes, moqueuses, observatrices et critiques le remplissent de joie encore. La sorcière qui a présidé à l'ouverture de son opéra ne l'a effectivement jamais quitté. La cachette symbolique d'où l'être parlant citéré qu'il était a pu entendre l'invocation qui le pousse et qui l'a poussé à prendre la parole, le garde du savoir regardant qui se présenterait quand il se présentera. C'est ainsi qu'un jour, à l'opéra justement, chantant avec les délices de l'accent vénitien qui s'entend dans sa voix, que les fenêtres sont calfoutrées, il s'est surpris en train de répliquer du tac au tac à la voix de Madame de Pompadour, qui l'interpellait sur Venise précisément. « Venise n'est pas là-bas, Madame, mais là-haut. » Venise est si proche de Vénus. Ma vie est ma matière est ma vie. C'est sa façon de lier le baroque au classique, de conjuguer l'impossible. Ses connaissances lui auraient permis d'être officiellement médecin, prêtre, avocat, traducteur, homme d'affaires, plus encore. Il sera tout à la fois. Il ne manque pas de panache pour guérir le patricien Bragadin qui se meurt sur sa gondole et trouve ainsi le protecteur à sa démesure. Il amuse ses interlocuteurs. Il amuse ses interlocutrices grâce à son génie par Alice, avec qui il communique par écrit en transformant les lettres en chiffres. Ah, le génie de l'écrit! Il n'en revient toujours pas. Il se doit d'en laisser la trace. Maintenant, dès les premières lignes, la doctrine des stoïciens et de toute autre secte sur la force du destin est une chimère de l'imagination qui tient à l'athéisme. Je suis non seulement monothéiste, mais chrétien, fortifié par la philosophie qui n'a jamais rien gâté. Histoire de ma vie commence par un hommage au christianisme et se termine en latin sur l'évangile, Evangelium, bonne nouvelle, la sienne. Non erubesco Evangelium, ce 17 novembre 1797. Jacques Casanova, c'est ainsi que se termine, précis de ma vie, quelques lignes écrites à Cécile de Roggendorf juste avant d'interrompre la révision d'histoire de ma vie, 6 mois avant sa mort. Non erubesco evangelium, je ne rougis pas de l'évangile que j'ai trouvé. Profanateur, s'écrie le défenseur du lieu du sacré, sans savoir que le profanateur, c'est celui qui est au-devant du sacré, celui que nous avons nommé le laïc. Alors, prudence, attendons le dernier moment pour écrire. À l'instar de Galilée, prévenu par la mise à mort de Giordano Bruno, qui annonce secrètement à ses collègues ses découvertes sous forme d'anagrammes, écrit dans des distiques latins, Casanova ne veut surtout rien dévoiler. Dans sa retraite, il se fie à cette parole biblique énigmatique, oubliée, qu'il se met à entendre de plus en plus souvent. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Avec une parenthèse qui contient le « e », c'est-à-dire la supposition du féminin. Il l'entend souvent. Mozart est juste à côté de lui. Sa présence rend présent le présent d'une présence à l'ombre des lumières du XVIIIe siècle. C'est cette présence qui fait du XVIIIe siècle le siècle des lumières. Il ne l'avait pas encore reconnue. Il le sait maintenant. C'est elle qui l'a poussé à jouer du violon dans sa jeunesse. C'est elle qui le faisait venir et revenir pour écouter la musique du final de Don Giovanni. Que tendait-il à entendre dans ce passage de la musique ? Un révolution. Le pas qui conduit de l'ombre à la lumière, qui réveille celui du un. L'histoire de l'opéra privé qui est sa vie vient de ce moment, juste de ce moment. La mise en scène des 3 personnages qui se connaissent bien, le monothéisme, le christianisme et la philosophie, n'a jamais été aussi actuelle. Il le sait maintenant. Bien sûr, il lui est arrivé d'interpréter le christianisme comme un détournement du judaïsme par Paul de Tarse. De tels propos s'échangeaient de toute façon en privé. Motus, pas un mot. Mais ce qui se disait ouvertement, c'est le credo, écrit et dicté après le concile de Chalcédoine de 451. Je remercie Henri Fontana pour cette précision. Concile de Chalcédoine de 451, credo que chaque néophyte se doit de faire entendre le jour de son baptême. Cette première proclamation de foi le fait entrer à partir de la mise en place des dogmes sur lesquels l'Église va être construite, le fait entrer dans l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Il est admis, nommé à, les psychanalystes s'y reconnaîtront, c'est un chrétien. Catholique, l'Église est universelle, catholos, selon le tout, dans un mouvement de haut en bas, elle se voue à convertir au tout. C'est sa mission apostolique qui pousse chacun à constituer le tout de l'ensemble. Et elle est sainte, c'est-à-dire qu'elle le consacre, cet ensemble, et qu'elle se consacre à lui. Mais où l'Église a-t-elle trouvé ce savoir du tout comme somme de l'un communien, de l'un communion? Savait-elle qu'il est l'anagramme d'ennui dans la langue qu'il chérit, le français? Ce qui est évident maintenant pour lui, c'est non seulement qu'elle a réussi et que ça continue universellement, mais que ceux qui se disent athées ont aussi leur superstition cachée du tout de l'universel. Oh, il en a surpris plus d'un grand dans ce siècle, dans ce 18e siècle. Il se souvient plus particulièrement du déiste Voltaire, à qui il a rendu visite en 1760. Mais immédiatement, il pense à ce qu'il a précédé. C'est ça l'important, la rencontre de l'écrit d'Henriette, toujours gravé sur la vitre de l'hôtel à Genève. Tu oublieras aussi Henriette. C'est pourquoi elle ne l'a pas oublié, c'est pourquoi elle ne l'a pas oublié. Elle en savait un bout sur le tout de l'amour, qui n'est pas le narcissisme, mais le un de l'unique. Rien à voir avec la cour dont s'entourait le philosophe. L'opéra privé qui se donne à lui maintenant et dont il est en quelque sorte le metteur en scène est histoire du tout, la sienne. Et Henriette aura été son ambassadeur auprès des autres femmes, alors que le discours habituel établi des statistiques dresse un catalogue à l'instar du censeur Liporello. 1000 traits, ce n'est pas ça, Mozart, Henriette et quelques autres. Histoire de ma vie se donne à qui peut l'entendre comme tresse qui unit nous, le monothéisme, le christianisme et la philosophie. Et ce tressage n'a rien à voir avec le dressage des anciens pères de l'Église et des nouveaux papes de tous bords. Il pense au message laissé par un grand voyageur comme lui, Paul de Tarse, qui parlait puis écrivait comme lui aussi. L'événement est relaté dans l'Épître aux Galates, écrivèrent l'an 57. Paul vient d'apprendre le détournement de son enseignement par des prédicateurs de la loi. Alors il ne réfléchit pas, il le fera un an plus tard, en rédigeant l'Épître aux Romains. Plus tempéré, plus acceptable, immédiatement, sa voix profane. Et quelque chose est transmis. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Chapitre 3, verset 28. Jusque-là, il avait pensé que Paul énonçait une christologie, toujours la même, la proposition de Jésus-Christ sauvant par sa mort et sa résurrection, non seulement un pécheur, mais tous les pécheurs. L'Église a toujours tenu à cette interprétation. La mission de Jésus-Christ est la rédemption des péchés par la grâce. Maintenant, ce savoir l'arrête. Il y a quoi ? Trois impossibilités. Il sait bien, lui, Paul, possible. Sont formulés négativement. Pour se résoudre, par l'affirmation du tout en un. Casanova est sonné. Tout ce qu'il savait déjà ne tient plus. Il découvre un savoir que nous avons reconnu dans le livre passionnant de Jean-Claude Milner, Le Juif de Savoir, publié chez Grasset en 2006. Il découvre un savoir qui se donne à lui comme suite logique, impossible à comprendre. Juste un savoir. Ce qui lui donne sa valeur, et on pourrait dire la confirmation de ce qui est au cœur du christianisme, c'est que l'Église l'a converti à l'universel, au catholicisme en quelque sorte. Paul n'en reviendrait pas de cette conversion. Henriette sourirait certainement. Quant à Mozart, il éclaterait de rire. Et alors, le rideau tomberait. Le psychanalyste, qui jusque-là a gardé le silence, sort de sa cachette. Il applaudit. Il a reconnu la mise secrète du savoir dans le réel, celui qui dit sans parler. Et bien sûr, sa substitution habituelle par un savoir à ascendance imaginaire, que Lacan nomme ainsi dans le séminaire du 15 février 1977. Savoir à ascendance imaginaire qui lui dit à sens unique, en universalisant le tout. Il est apparu, à la suite de Freud, à la fin du 19e siècle, pour en répondre. Il connaît l'importance du moment dans le transfert où une torsion met en jeu l'absolu du savoir sur la scène pour que des traces insistantes de ce réel s'écrivent, le savoir inconscient. Il ne récuse bien sûr pas la différence sexuelle qui répartit l'homme et la femme chacun à sa place sous une bannière. Mais il ne reconnaît que l'expérience du discours. C'est de là dont il parle, pour aborder l'énigme de l'universel et du sexuel. L'être parlant est fils du langage. Il n'est pas sans savoir que celui qui se dit « homme » justement, la diffame, la dite femme, jusqu'à ce qu'en savoir inconscient tisse la torsion qu'est l'universel de l'amour. Il ose avancer, tout homme n'est pas femme, non pas n'est pas une femme. Tout homme n'est pas femme, qui est le juste mode d'introduire au fait que le discours du tout, qui est le discours de l'homme, conduit à une fermeture à l'univers du discours du féminin, qui est celui d'une femme. D'un côté, l'homme, de l'autre, une femme. Et non, d'un côté, l'homme et de l'autre, la femme. Mais comment la rencontre peut-elle advenir ? Il aura fallu qu'advienne une femme pour que tout homme accède à l'amour, qui est autre chose que l'un de l'unien ou du quelconque, puisqu'il suppose l'unique. Telle serait la mise de tout être parlant d'être déchiré entre le tout de l'homme et le pas tout d'une femme. Tout être parlant, qu'il soit sous la bannière homme ou femme, le savoir moderne peut-il conduire là? C'est une question. Et résonne, pour le psychanalyste, la voix de Lacan clamant l'universel de ce qu'elle désire. Télévision. Toutes les femmes sont folles, qu'on dit. C'est même pourquoi elles ne sont pas toutes. C'est-à-dire pas folles du tout, arrangeantes plutôt. Au point qu'il n'y a pas de limite aux concessions que chacune fait pour un homme, de son corps, de son âme, de ses biens. Il est plaisant de penser que Casanova, qui a écrit une lettre de 150 pages à Robespierre en 1791, lui a parlé de sa découverte. Elle n'a pas trouvé son destinataire. Nous n'avons aucune trace. Le faux curé, comme l'a baptisé Condorcet, a participé activement à l'instauration de la terreur. Il sera décapité comme il a décapité les Capets.